Ce matin, nous voulons poursuivre avec la thématique du disciple, suis-moi. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche dans la voie du Seigneur et qui montre aussi à quelqu'un d'autre comment marcher dans les voies du Seigneur. Et on va sur la base de la lettre de Jean au chapitre 3, nous servir de support pour le message d'aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un disciple au niveau de son langage, le langage d'un disciple. Au chapitre 1er de la lettre de Jacques, qui est le frère du Seigneur Jésus-Christ, qui était le pasteur principal de l'Église de Jérusalem, nous invite à écouter et à pratiquer la parole. Au chapitre 2, il nous demande de vérifier et d'examiner notre foi, l'authenticité de notre foi. Au chapitre 3, le chapitre 3 est consacré à la langue, au langage, aux paroles, et il nous invite à maîtriser notre langue. Le docteur anglais dit ceci: la langue se trouve dans un endroit très humide, c'est la raison pour laquelle elle a souvent tendance à glisser, à dériver. C'est vrai. Alors, si vous êtes chrétien, vous avez accueilli Christ dans votre vie et son esprit en vous a commencé une œuvre de transformation. Et c'est important de le rappeler qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui ne pratique pas une religion, mais c'est quelqu'un qui est en relation. Il y a une grande différence entre une religion et être en relation avec Dieu. Ce qui change tout, c'est qu'il mène par l'Esprit de Dieu en nous des modifications, des transformations. On peut même parler de métamorphose, de grande transformation. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ dans sa conduite, dans ses actes, dans ses faits et gestes. Et puis, on se rend bien compte qu'un chrétien, c'est aussi quelqu'un qui parle différemment. Si vous êtes devenu chrétien, vous avez remarqué que le langage a évolué, votre vocabulaire a changé. J'ai connu des gens qui, avant, avaient un vocabulaire terrible, et au fur et à mesure de leur progrès dans la vie chrétienne, leur vocabulaire a changé. Mais non seulement le vocabulaire, la voix, l'intonation, la tonalité, les Allemands disent qu'il y a trop de martingale. C'est le ton qui fait la musique. Et amené de l'intérieur par l'Esprit de Dieu, bien extérieurement, il y a des signes visibles de transformation. À la disciple de Jésus-Christ, c'est donc quelqu'un qui se comporte différemment, et c'est quelqu'un qui se comporte comme Christ. Et mon frère nous en a parlé la semaine dernière, en disant que Christ, on appelait les disciples les chrétiens les petits Christ. Parce que dans leurs faits et gestes, dans leur façon de vivre, dans leur comportement, ils se conduisaient comme Christ. Mais ils parlent aussi comme Christ. Jean chapitre 1, verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs, bien-aimés, que chacun soit prêt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Au verset 26, si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, religion et sans valeur. Alors, le pasteur Jacques, qui était le pasteur principal de l'Église de Jérusalem, s'adresse à des gens qui étaient religieux, qui connaissaient bien la tradition, qui connaissaient bien la liturgie, mais qui étaient déconnectés de la réalité. Ils étaient très religieux durant le week-end, ils récitaient leur formule, leur prière, leur louange, mais durant la semaine, il n'y avait absolument aucun lien avec ce qu'ils avaient vécu justement au cours de ce week-end. Et alors, Luc leur dit, mais si quelqu'un vit de cette manière, il se ment à lui-même. Il se trompe. Il triche avec lui. Il va plus loin, il nous dit, donc, en fait, disons que quelqu'un qui apprend à écouter et l'en a parlé, et je crois qu'il s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons exactement l'inverse. Nous n'écoutons pas, mais nous parlons beaucoup. Et quand Dieu nous parle, comme il l'a déjà fait ce matin, nous voulons écouter. Et écouter, ce n'est pas seulement entendre, mais c'est aussi fonction de la parole qui nous a été adressée. Aujourd'hui, tout le monde parle. Les réseaux sociaux fleurissent de conversations de toutes sortes. Les statistiques disent que nous passons à peu près un cinquième de notre vie à parler. Bon, je ne vous apprends rien. Les femmes parlent un peu plus que les hommes. Pas un scoop. Alors, j'ai essayé de découvrir un petit peu le nombre de mots que pouvaient prononcer une femme et un homme tout au long de la journée. Les chiffres sont un petit peu controversés. En tout cas, des études sérieuses faites par des Américains qui ont placé des micros avec les personnes peuvent donner quelques statistiques qui nous font à peu près une moyenne. Donc, un homme prononce en moyenne entre 2000 et 4000 mots par jour. C'est une moyenne. Et une femme prononce entre. Comment dire? Entre 6000 et 8000 mots par jour. Alors, ce qui fait que quand il compte une journée de travail, la femme qui n'a pas encore épuisé son quota de parole a besoin de parler. Bon, des études très sérieuses montrent que c'est en relation aussi avec une partie du cerveau. Hein. Chez la femme, vous savez qu'on n'est pas construit de la même manière, et donc ceci explique cela. Et moi, je suis heureux de ce que les pays ont, parce qu'on ne soit pas dans l'opposition homme, femme, jeune, moins jeune, mais qu'on vive les choses dans la, non pas dans l'opposition, mais dans la complémentarité, dans l'harmonie, et tout ça, c'est quelque chose de bien. On vit l'un de l'autre. Et on se complète les uns les autres. Alors, ceci dit, Proverbe 10, verset 19, nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Ce qui me permet de dire que la qualité de votre vie de disciple peut se mesurer à la façon dont vous parlez, à la façon dont vous parlez aux autres et la façon dont nous nous parlons les uns aux autres. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on se parle? Comment est-ce qu'on se parle? C'est clair que nous formons une grande variété, une grande diversité de cultures. Et c'est une richesse pour les pays. Maintenant, ce n'est pas toujours évident de s'accueillir les uns les autres dans cette diversité. Elle peut parfois être vécue comme une menace. Je crois que par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Jésus, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons nous accueillir mutuellement dans un esprit de grâce. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres. Et c'est ce que nous voulons vivre ici, en dépit d'un cœur honnête, d'un cœur sincère. Jésus, il est vrai de Jacques, nous dit que les paroles dévoilent ce qu'il y a dans le cœur. Matthieu chapitre 12, verset 34. Jésus était très dur avec les religieux de son époque, notamment les pharisiens. Matthieu 12, 34, il nous dit rendez-vous hypocrite. C'est en lien avec la langue. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais ou méchant comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. La traduction secondaire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Littéralement, le grec dit c'est du débordement du cœur que la bouche s'exprime. Alors parfois, quelqu'un dira, mais tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si je l'entends, si je l'entends à tes propos. Et ce que tu dis montre ce qu'il y a à l'intérieur de ton langage, de ton travail. Donc, nos paroles dévoilent ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxièmement, nous avons et nous aurons un jour à rendre compte de nos paroles. Et, frères et sœurs, j'aimerais vraiment que le Seigneur soit là et je me parle à moi en tout premier. Oui, le Seigneur nous l'Église à nouveau notre sens des responsabilités. Notre sens de la responsabilité vis-à-vis de nos propos. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile, parole oiseuse, pardon, qui ne sert à rien, qui est vide de sens, sans intérêt, stérile. Les hommes auront à rendre compte de toute parole oiseuse, inutile, qu'ils auront prononcée. Le verset 38, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Donc, au niveau du contexte, Jésus s'adresse aux pharisiens. Ce sont des gens qui se sont violemment opposés à lui. Et il les met en garde, il dit attention à vos paroles, parce qu'elles sont le fruit de ce qui se passe à l'intérieur. Attention à vos paroles. Parce qu'ils révèlent l'état de votre cœur. Oui, un disciple ne dit pas n'importe quoi. Il fait attention à ses propos. Colossiens 3, 7. Autrefois, vous marchiez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à tout cela. La colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, ou grossièreté qui pourrait sortir de votre bouche. Il y a une différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas. Entre un disciple de Jésus et quelqu'un qui ne l'est pas. Éphésiens 4, 21. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Le mot grâce ici, c'est faire du bien. Chaque fois que vous trouvez le mot grâce dans le Nouveau Testament, c'est faire du bien. En tout cas, en rapport avec ce texte et notre comportement, notre conduite. Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende pas des paroles grossières, des propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours pleine de grâce, qu'elle fasse du bien. Et assaisonnée d'une sève, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parole qui fait du bien, parole qui encourage, une parole qui réconforte. Et puis, une deuxième chose que je voulais évoquer ce matin, c'est que les paroles ont un certain pouvoir. Un certain pouvoir. Par image, je disais, le poids du monde, le choc du clôture. Mais prenons conscience du pouvoir de nos paroles. Proverbe 18, verset 28. La main et la vie sont au pouvoir de la langue. Le texte hébreu dit la mort et la vie sont dans la main de la langue. Pour la traduction, le pouvoir. Et chacun de nous, nous avons la possibilité de faire vivre ou de faire mourir par nos paroles. Quand je pense à ça, ça fait un peu trembler. Une seule parole peut faire l'effet d'un cutter, d'un coup de couteau. Les parents peuvent tuer les enfants en les rabaissant, en les dénigrant, en les dévalorisant. Mais les ados, les jeunes, sont parfois aussi très durs avec leurs parents, peuvent blesser, écorcher. Moi, j'ai connu des gens qui sont devenus fous, même fous, dangereux, parce qu'ils ont toujours été rabaissés, dénigrés et dévalorisés. Aujourd'hui encore, je connais quelqu'un qui est en psychiatrie, dans un département très, très difficile, très dur, parce que jamais les parents lui ont donné de paroles d'affection, de tendresse, d'amour. Jamais il n'a été valorisé. Et aujourd'hui, il se trouve en grande difficulté. On peut tuer les gens. Moralement, psychiquement, psychologiquement, et même physiquement, il y a des jeunes qui se sont suicidés parce qu'ils ont été dénigrés et dévalorisés. Les paroles peuvent apaiser. Mais elles peuvent aussi entretenir l'amertume, elles peuvent encourager ou démotiver. Les paroles peuvent élever ou rabaisser, elles peuvent inspirer ou inquiéter, elles peuvent valoriser ou détruire, libérer ou réduire. Le Seigneur qui nous a parlé ce matin nous a parlé pour nous libérer, pas pour nous inquiéter, au contraire, dit, dépassez votre inquiétude, dépassez vos peurs, dépassez vos craintes. Ça, c'est une parole de libération pour que nous agissions en fonction de ce qu'il nous a donné. Adonai, sur tout de ton, 1853, dit ceci, la parole est un projectile qui tout dispose. Mais nous ne voulons pas tuer, nous voulons que notre parole serve à quelqu'un. La parole, elle peut bénir ou elle peut sourire quelqu'un, elle peut construire ou ravager la vie de quelqu'un. Proverbe chapitre 12, verset 18, nous dit, celui qui parle à la lumière blesse comme une épée, comme la glaive. Tandis que la langue des sages apporte la guérison. Et c'est cela que nous voulons, en tant que disciples de Jésus-Christ, apporter les paroles de guérison. Et c'est le choix du disciple de dire chaque jour au Seigneur, Seigneur, aide-moi à apporter les paroles de soulagement, paroles de guérison, une parole de vie, une parole d'espoir, une parole d'espérance. Une parole qui va édifier, qui va construire, plutôt que de demander. Jean chapitre 3 nous donne quelques expériences et quelques exemples par rapport au pouvoir de nos paroles. Par exemple, dans le domaine de l'enseignement, Jean chapitre 3 et verset 1. Là, nous dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Enseigner le peuple de Dieu, c'est une grande responsabilité. Chaque prédicateur vous le dira, avant de monter sur une estrade, nous sommes dans la crainte et dans le tremblement. Parce que nous savons qu'un jour nous aurons à rendre compte de ce que nous aurons partagé avec le peuple de Dieu, les paroles, les enseignements, tout ce que nous aurons pu apporter, nous aurons à rendre compte. Nous nous posons la question, est-ce que tu as annoncé le conseil de Dieu? Est-ce que tu leur as dit tout ce que je t'ai demandé de dire? Est-ce que tu l'as bien négligé? Il y a des choses qui vont corriger, il y a parfois des choses qui sont là pour corriger notre trajectoire, pour rectifier. Je veux dire, peut-être Paul qui parle de viande, est-ce qu'il parle d'enseignement, il est parfois des bons desserts, on aime bien les produits, c'est la parole de Dieu, on aime bien les encouragements. Mais il y a aussi des moments où il faut, comme ce matin par exemple, lorsqu'il est question de la langue et de la parole, ce n'est pas facile à entendre, mais ça fait partie de l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce qui reste dans notre cœur en tant qu'enseignant avec lui, c'est de porter une parole juste, une parole de vérité, et une parole d'amour, une parole d'équilibre. Et nous sommes seulement dans l'amour, nous pouvons verser dans le sentimentalisme. Mais si nous ne sommes plus dans la vérité, nous pouvons verser dans la brutalité. On a besoin des deux. Dire chacun la vérité dans l'amour, dit l'apôtre Paul. C'est ce que nous devons faire en tant qu'enseignant, une parole, ministère de la parole, une parole juste, une parole vraie, une parole équilibrée, aussi une parole d'amour pour construire dans la vie des chrétiens. Sachant qu'un jour, nous allons rendre. Les paroles nous marquent, les paroles nous puissent. Elles sont particulièrement puissantes dans une relation d'autorité. Si le professeur vous dit, vous allez lui prendre la place. Et c'est la raison pour laquelle nous prions, nous réfléchissons et nous prenons particulièrement au cœur l'enseignement que nous voulons vous apporter. Enseigner la parole de Dieu, c'est une lourde responsabilité, ce n'est pas un jeu. Une lourde responsabilité. Alors, frères et sœurs, prions pour ceux qui nous enseignent, pour les personnes, les anciens. Prions pour ceux qui enseignent nos enfants, nos ados, nos jeunes. Prions pour ceux qui partagent la parole de Dieu dans les groupes de maison, dans les petits groupes, autour de l'Église. Nous sommes engagés envers vous pour construire dans vos vies. On parle juste des sermons, des beaux paroles, mais nous voulons vous accompagner dans la maturité. Ensuite, dans le domaine de l'orientation, Jacques au chapitre 3, et au verset 2, jusqu'au verset 6. nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Nous mettons un mot dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous pourrons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien penser aux navires, même s'ils sont très grands et que le vent violent les pousse, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Eh bien, la langue est pareille à la feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps et affecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Terrible, c'est pas. Terrible. D'où ce sens aiguisé de notre responsabilité. Alors, la lettre de Jacques, il faut le dire aussi, n'existe pas la perfection. Je veux aussi apporter une parole de libération ce matin. Elle ne vise pas la perfection, elle vise le progrès. On est d'accord? Ce matin, nous ne sommes pas là pour dire il faut que tu dois, il faut que tu pas. Non. Nous sommes là tous ensemble pour marcher de progrès en progrès. Ça vous va? Parce que Dieu n'est pas là pour nous juger ou nous condamner, mais il est là pour nous libérer. Et le jugement, de toute façon, la condamnation ne nous aide pas beaucoup, ce n'est pas très pédagogique. Par contre, voilà, tu peux le progresser. Même les 10 commandements. En français, on dit les 10 commandements. En réalité, l'hébreu dit les 10 paroles. Les 10 paroles. Ce sont des paroles libératrices qui nous ouvrent des portes de la fin qui peut ne pas mentir, qui peut ne pas mentir, etc. Les paroles ont un pouvoir d'orientation. Par exemple, l'estime de soi, le regard que l'on porte sur sa vie, au fond, c'est la somme des paroles emmagasinées tout au long de notre vie. Les paroles d'encouragement, les paroles de valorisation permettent à quelqu'un d'être droit dans sa vie, d'avoir confiance en lui-même et de vivre une vie debout. Et celui qui ne les a pas eues trouve parfois des difficultés dans sa vie. Les paroles ont un pouvoir décisif. Les paroles peuvent influencer le cours d'une journée, le cours d'une vie et même le cours d'une nation. Le 13 février 1990, Nelson Mandela est sorti de prison après 27 ans d'incarcération. Il fait un discours à la nation, discours qui est retransmis à la télévision nationale. Tout le pays est à l'écoute de ses paroles. La violence monte dans tout le pays. On prend vengeance. Les gens sont dans la rue, les armes à la main. Ils réclament le pouvoir. Le pays tout entier est bombardé de feu et de sang. Et Nelson Mandela apparaît à l'écran et il fait cette déclaration. L'apartheid n'a plus d'avenir. La haine n'a plus d'avenir, le passé n'a plus d'avenir, l'amertume n'a plus d'avenir, la violence n'a plus d'avenir, la vengeance n'a plus d'avenir, les armes n'ont plus d'avenir. Je suis ici pour vous proclamer le pardon, la réconciliation. Je pardonne et je veux me réconcilier. Et ce discours a changé le cours de la nation, a changé le cours de l'histoire de l'Afrique du Sud. On va voir là encore ce fameux match de rugby, je ne sais pas, vous le voyez peut-être aussi, où Nelson Mandela est dans le stade avec le maillot, et Springbok, c'est l'équipe de l'Afrique du Sud, en tournant, mais quelle victoire! La puissance des paroles. Toute une nation qui a changé. paroles peuvent changer le cours des événements pour mon couple, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon entreprise, pour l'Église. Pour l'Église. Notre frère Guillaume, qui a chanté tout à l'heure, il va nous parler tout à l'heure. Il va nous parler de l'avenir de notre Église. Guillaume est membre de notre conseil d'administration et il a en charge tout particulièrement toute la responsabilité des locaux et du futur de l'Église en termes de bâtiments. Il va nous parler tout à l'heure. On va être attentif à ce qu'il va nous dire. Et je bénis Dieu pour Guillaume. Je bénis Dieu pour ses capacités, pour ses talents, pour ce que Dieu lui a donné. C'est aussi un point fort de l'Église, de mettre en valeur les talents, les capacités des uns et des autres. Tout à l'heure, il va nous parler. Nos paroles peuvent changer le cours des événements. Jacques, au chapitre 3, verset 9, nous invite aussi, avec des paroles, à prendre une décision. Jacques, chapitre 3, et verset 9. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre langue, notre temps, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce ou de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire 12 olives, aucune vigne ne peut produire des figues, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. On ne peut pas en même temps dire du bien ou dire du mal. On ne peut pas dire oui et non à la fois. J'ai une petite fille qui dit « Je veux, mais je ne veux pas. Je veux, mais je ne veux pas. » Jacques 5, 12 dit que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors, juste une petite explication. Il y a quelquefois des textes qui sont un petit peu difficiles à comprendre, mais quand vous êtes convoqué au tribunal, en tant que témoin, on vous met la main sur la Bible et vous dites « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes sous serment. Ça veut dire que vous avez juré de dire tout ce que vous savez, vous avez juré de dire la vérité par rapport à des circonstances, par rapport à des événements, par rapport à une situation. Tout témoignage se fait donc sous serment. Eh bien, si tu es chrétien, et si tu es un disciple de Jésus, c'est toute ta vie qui est sous serment. Toute ta vie. C'est-à-dire que tu affirmes vivre de la vérité. Et la vérité est donnée par le Seigneur, notamment dans sa parole. Et toute cette vérité est contenue dans sa parole. Et en cas de mensonge sur ce serment, une personne peut être poursuivie pour parjure. Mais dans le domaine spirituel, il y a également des conséquences. C'est quand on vit dans le mensonge, on se fait piéger par le péché du mensonge. Et c'est là qu'intervient cette notion de jugement. Alors je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à vivre notre vie sous le serment de l'ordre. Prenons conscience de cela. Et je termine ce message ce matin. Moi, j'ai bien conscience de ne pas être exhaustif, mais je voudrais rester sur notre cœur quelques pistes pour améliorer notre langage. D'abord, la première chose à faire, je pense, c'est prendre soin de notre cœur, prendre soin de notre relation avec Dieu. C'est la source. Proverbe 4, 23 dira garde ton cœur, puisque tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et bien prenons soin déjà de notre propre cœur. Soignons notre relation avec Dieu, mais c'est d'elle aussi que découvrons les paroles qui vont construire, qui vont donner la vie, qui vont donner de l'espérance. Soignons notre relation au Seigneur, dans la prière, dans une lecture quotidienne, à l'écoute du Seigneur. Deuxième chose, prions avant de parler. Ça peut aider. Pensez pas. Prions Seigneur, aide-moi dans cette journée. Garde-moi de dire des bêtises. Garde-moi, Seigneur. Là, je voudrais voir un peu rapide avec vous. Je ne parle pas en premier. Je dis bien des choses difficiles, douloureuses. Seulement, quand on est ensemble, et quand on est en équipe et quand on travaille ensemble, nous sommes limités, nous sommes imparfaits. Je veux vraiment et de tout cœur demander pardon à ceux et celles que j'ai pu blesser d'une manière ou d'une autre. Involontairement, je l'ai fait quand même. Je réalise que les uns ou les autres, vous avez été parfois blessés. Pardon. Pardonnez-moi. Exerçons ce que dit la parole. Pardonnez-nous les uns les autres. Faisons-nous grâce les uns. Il n'est pas toujours au top. On est un peu fatigué. On n'est pas mérité. Les journées sont longues. Et quelquefois, c'est la deuxième visite. Comme on rentre à la maison, on est passé une journée difficile, mais c'est votre conjoint qui va attraper. Il n'est pas le pauvre, il n'est pas rien. Mais quelquefois, les paroles glissent. Eh bien, on voudrait exercer le pardon des uns à l'égard des autres. Pardonnez-moi. Troisième chose, réfléchissez. Le choix des mots a son importance. Le vocabulaire est important. Tournez sept fois votre langue dans votre bouche avant de vous parler. Avant de parler. Préparez-vous aussi avant de parler. Pensez. Posez, mesurez les conséquences de l'opération. Si je parle de quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il va le prendre? Comment est-ce qu'il risque de le prendre? Voyez? Préparez votre intervention. Et puis, alimentez vos pensées par la parole de Dieu. Que la parole de Christ, Colossiens chapitre 3, verset 7, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Maîtrisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. L'importance d'être, de baigner dans la parole de Dieu. Et puis finalement, nous sommes des pentecôtistes. Et dans Marc, au chapitre 16, verset 17, lorsque l'évangéliste Marc parle du baptême, de fait de se remplir du Saint-Esprit, il dit en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. De nouvelles langues. Et j'aimerais vraiment vous encourager à être baptisé de l'Esprit, à être rempli de l'Esprit. Et à parler en langue. Pour vous, pour votre culte personnel, parlez abondamment. L'apôtre Paul disait, je parle en langue plus que vous tous, mais dans son culte privé et personnel. Il y a un parlement qui est donné pour interpréter que nous sommes en rencontre, en réunion de l'Église, mais il y a un parlement en langue qui nous est donné à l'usage personnel, pour développer, pour nous édifier personnellement. Et je crois que lorsqu'on parle abondamment, personnellement, en langue, on dira moins de bêtises après en français ou dans la langue que vous parlez. Croyez pas? Bon, je le crois. Utilisez cette nouvelle langue abondamment pour vous-même. Voilà quelques pistes, voilà quelques conseils. Bien sûr, je ne suis pas complet. Beaucoup d'autres choses pourraient être données. J'avais à cœur de relier ce passage et ce message à ce que nous sommes en train de vivre depuis quelques semaines. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Dans ses faits, dans ses actes, dans son comportement, dans sa conduite, dans sa mentalité, mais aussi dans ses propos, dans ses paroles, que l'on suit, que nous sommes de chrétiens. Que nous soyons des chrétiens compulsés par ce que nous vivons et ce que nous disons. Amen. Eh bien, ma prière est offensive. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, avec nos manquements, avec nos faiblesses, avec nos fragilités. Lorsque nous réfléchissons notre façon de parler, oh, nous sommes confondus, Seigneur, pardonne. Pardonne nos bêtises. Pardonne, Seigneur, nos erreurs. Pardonne la critique. Pardonne, Seigneur, la médisance de tout ce qui peut sortir de notre bouche à longueur de journée. voulons être ce matin encore un véritable disciple. Seigneur, merci de nous donner un langage de disciple pour que nous sachions soutenir par la parole celui qui est abattu. Réveille chaque matin, réveille mon oreille pour que j'écoute ce qu'on fait des disciples. Merci de nous donner ce langage de disciples. Alors, Seigneur, oui, pardon pour mes paroles, pardon pour mes propos. Aide-nous, aide-moi à mieux prier. Viens aiguiser tout à nouveau la sensibilité et le Saint-Esprit. Oh, garde-nous, garde-moi de la tristesse. Renouvelons-nous le sens de la responsabilité. Aide-nous ensemble à progresser, à bannir la critique, à bannir la médisance, la calomnie, l'invention, la méchanceté. Aide-nous, Seigneur. Éloigne du milieu de nous toute parole qui touche. Et aide-nous à vivre des paroles encourageantes, édifiantes, des paroles qui communiquent la vie. Et que nos prières soient riches. Et tous les autres, Seigneur, nous voulons le bénir. Merci de construire, d'édifier et de permettre à ton Église de vivre comme vivent les disciples de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Merci pour votre attention. Et merci pour votre pardon. Merci d'être attentif à ce propos, que nous puissions nous faire grâce les uns les autres, nous accueillir les uns les autres,